Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section d'un texte tiré du média suivant. L'inconvénient. Au programme, autopsie du débat. Bonne écoute.
Autopsie du débat sur la refonte du cours « Histoire de la civilisation occidentale » par Arnaud Montreuil, paru à l'été 2022 dans la revue « L'Inconvénient ». Dans le cadre de ce numéro portant sur l'histoire contestée, il me semble important de revenir sur le récent débat touchant la refonte du cours « Histoire de la civilisation occidentale » et dont l'enjeu était la suppression de l'étude obligatoire des mondes antiques et médiévaux. Cette bataille rhétorique qui a eu lieu pendant l'année scolaire 2020-2021 a d'abord secoué le petit monde des historiens et particulièrement celui des enseignants au collégial. Puis, elle a embrasé les pages idées du Devoir et s'est transportée dans le Journal de Montréal et la presse, de sorte que cette confrontation a aussi trouvé un écho à l'Assemblée nationale et auprès du grand public. Si je partage cette réflexion dans les pages de L'Inconvénient, c'est parce que ce débat, essentiellement mené à coups de lettres ouvertes dans les quotidiens, peut être considéré comme un événement littéraire. En effet, nulle part mieux qu'ici ne s'applique l'idée voulant que le médium soit le message. La forme ciselée, incisive et ponctueuse de la rhétorique épistolaire publique soufflait sur les braises, ralliait les indécis, et durcissait les partisans, tout en cristallisant les discours sur l'histoire autour d'un petit nombre de poncifs sur le sens de son enseignement. Je me propose ici de faire l'autopsie que ce débat mérite, moins pour compter les lances brisées par les jouteurs que pour réfléchir aux arguments soulevés et à ce qu'ils disent de notre rapport à l'histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois cependant offrir ces deux avertissements. Ayant fait de l'étude du Moyen Âge ma spécialité universitaire, je ne peux, pour des raisons scientifiques et professionnelles, défendre le projet de mettre fin à l'étude obligatoire des sociétés antiques et médiévales. Ensuite, m'appropriant pleinement la double liberté qu'autorise la forme de l'essai et la métaphore de l'autopsie. Et conformément au titre de cet article, je m'en tiendrai d'abord au registre descriptif de l'examen avant de proposer des réflexions critiques sur la finalité de l'écriture en histoire et la nécessité d'enseigner les mondes antiques et médiévaux. Rappelons d'abord les principales phases de ce débat. Entre 2017 et 2020, un groupe de professeurs a été chargé par le ministère de l'Éducation de proposer des solutions à des problèmes concernant le cours « Histoire de la civilisation occidentale » enseigné au collégial. Au banc des accusés figurait la redondance avec les programmes du secondaire et l'attention insuffisante accordée à l'histoire contemporaine en raison d'un programme surchargé, ce qui empêchait l'analyse approfondie des phénomènes sociaux. Le comité chargé de la réforme du programme d'histoire a proposé plusieurs solutions. Parmi leurs idées, on a retenu celle qui consistait à créer un cours d'histoire du monde du 15e siècle à nos jours, ce qui avait pour conséquence de faire passer à la trappe l'enseignement de l'histoire des sociétés antiques et médiévales. À la fin du mois d'août 2020, une lettre de Nathan Murray, enseignant au cégep et doctorant en histoire antique, a mis le feu aux poudres. Critiquant dans les pages du « Devoir », le zèle du comité ministériel et la logique clientéliste de la réforme, il faisait son fer de lance de la question suivante. Pourquoi amputer l'histoire de l'Occident, de l'Antiquité et du Moyen Âge? Deux semaines plus tard, Patrice Régimbal, Linda Simard et Chantal Paquette, membres du comité ministériel, se portèrent à la défense du projet de nouveau cours par une réplique épistolaire qui répondait directement à la question imposée par Nathan Murray. Ces deux missives fixèrent les règles d'engagement du conflit en traçant les limites du débat à venir. L'enjeu de l'affrontement fut réduit à la question de l'histoire antique et médiévale. Le théâtre d'opération serait celui des principaux quotidiens francophones québécois et le médium privilégié pour livrer bataille serait le billet ou la lettre d'opinion. Octobre fut marqué par une amplification du conflit. Rémi Bourdeau et Nathan Murray contre-attaquèrent par une lettre adressée à la ministre de l'Enseignement supérieur assortie d'une pétition listant les appuis recueillis auprès du monde universitaire et des sociétés savantes. L'ancien premier ministre Lucien Bouchard s'invita ensuite dans le débat en mobilisant un argumentaire fondé sur la culture classique. Dans cet agon devenu hautement politique, qui connut son apogée en avril 2021, les défenseurs et les pourfendeurs du nouveau cours d'histoire du monde depuis le 15e siècle échangèrent des coups par écrit jusqu'à ce que, en juin 2021, la ministre de l'Enseignement supérieur désamorce le conflit par une résolution à laquelle personne ne pouvait s'opposer. Maintenir l'enseignement de l'histoire de l'Antiquité et du Moyen Âge tout en augmentant le nombre d'heures que les étudiants en sciences humaines devraient consacrer à la discipline historique afin de pouvoir intégrer l'histoire du monde du 15e siècle à aujourd'hui. Une solution bénéfique pour tous et profitable sur le plan du savoir, proposée peu de temps auparavant par Maxime Laprise, et que l'on s'étonne de ne pas avoir vu davantage mise de l'avant. Tout est bien qui finit bien, se dit sans doute le lecteur à la fin de ce récit. Somme toute, les professeurs d'histoire au collégial ont gagné au change quant au nombre d'heures consacrées à l'histoire dans la formation en sciences humaines. Mais la fin du conflit n'épuise pas son sens, qui, au-delà des rivalités propres au jeu professoral, portait plus largement sur notre rapport à l'histoire, à son enseignement et à la nécessité de la « découper en tranches », pour paraphraser Jacques Le Goff, quitte à en préférer une à une autre. Les arguments mobilisés par les deux camps au cours de leur compétition discursive ont façonné des objets communs que l'on peut décrire comme quatre oppositions. Celles-ci sont le résultat de positionnements intellectuels et éthiques extrêmement révélateurs qu'il importe de mettre en lumière. 1. La plus évidente de ces oppositions, la plus objective aussi, est celle du dilemme spatio-temporel qui affronte le temps long d'un espace restreint et le temps court d'un espace étiré. Doit-on privilégier l'étude d'une série de sociétés géographiquement situées dans un espace européen pendant des millénaires ou enseigner l'histoire du monde depuis le 15e siècle? 2. La deuxième opposition relève de la finalité pédagogique de l'histoire. Lucien Bouchard résumait sa conception de l'histoire à un adage, légèrement adapté. « Savoir d'où l'on vient pour décider où l'on va » dans la plus pure tradition humaniste. Cette finalité était confrontée à l'objectif formulé par Laurence Messier, présidente de l'Association des professeurs et des professeurs d'histoire des collèges du Québec, qui était d'offrir aux étudiants une formation historique de qualité qui contribuera à leur succès universitaire, personnel et professionnel, et plus largement, de bâtir une culture historique permettant de comprendre le monde contemporain. 3. La troisième opposition relève de la question de l'identité et plus particulièrement de la fonction identitaire de l'enseignement de l'histoire au collégial. Éminemment politique, elle était mobilisée par nombre des acteurs du débat. Patrice Régimbal, partisan du nouveau cours d'histoire mondiale depuis le 15e siècle, proposait notamment de déconfiner l'histoire québécoise en faisant de l'histoire du monde notre histoire. Le professeur de cégep arguait notamment qu'il serait gêné d'essayer de convaincre des étudiants d'origine haïtienne ou autochtone de s'identifier aux Occidentaux du passé qui ont asservi leurs aïeux et qu'il était incongru d'enseigner l'histoire de l'Europe dans la mesure où le Québec ne se situe pas sur le même continent. Dans sa réponse parue quelques jours plus tard, la professeure de cégep Ginette Cartier répliquait en présentant le Québec comme un rameau nord-américain de la civilisation occidentale, faisant explicitement des sociétés antiques et médiévales les racines de la civilisation occidentale. 4. Plus subtilement, se profilait enfin la question du présentisme et de l'utilitarisme. L'un des arguments de Nathan Murray et de Maxime Laprise en faveur de l'histoire antique et médiévale était de lutter contre la tyrannie du présent qui conduit à l'élaboration d'une histoire devant d'abord et avant tout expliquer le monde contemporain, quitte à négliger tout ce qui est trop ancien ou qui ne permet pas immédiatement de comprendre notre société. Ce point de vue n'était pas majoritaire, puisque bien des défenseurs de l'enseignement de l'histoire antique et médiévale exigeaient son maintien au nom de son utilité pour comprendre le présent, ce à quoi les partisans du nouveau cours d'histoire mondiale rétorquaient que le nouveau cadre d'enseignement serait le meilleur pour expliquer et analyser notre société. Au total, si l'on effectue une intégration dialectique de ces quatre oppositions, on peut résumer l'entièreté du débat à la proposition suivante. L'adoption préférentielle d'un cadre spatio-temporel pour l'enseignement de l'histoire au collégial doit être guidée par trois résolutions éthiques liées à la finalité pédagogique de l'histoire, à sa fonction identitaire, ainsi qu'à notre rapport au présent. Mais quelque chose cloche. Comme l'a sans doute remarqué le lecteur de « L'inconvénient », l'examen du débat montre que la grande absente de cette querelle sur l'enseignement de l'histoire est l'histoire elle-même. En effet, les trois questions de la finalité pédagogique, de la fonction identitaire et de l'utilité de l'enseignement de l'histoire, telles que circonscrites plus haut, conduisent à une méconnaissance de ce qu'est l'écriture de l'histoire et de ce qu'est le discours historique. Or, je considère que c'est précisément la fabrique de cette méconnaissance qui peut mener un certain nombre d'enseignants du collégial à militer pour l'amputation de l'histoire antique et médiévale du cursus obligatoire des cégépiens. Une telle prise de position exige que je définisse d'entrée de jeu ce qu'est l'histoire, ce que n'ont pas fait, consciemment ou non, la plupart des épistoliers au moment du débat. L'histoire est une science inventée dans les universités européennes de la seconde moitié du 19e siècle au terme d'un double processus d'autonomisation vis-à-vis de la littérature d'une part et de la philosophie d'autre part, auxquelles elle était auparavant inféodée. Son objet est le temps, et plus précisément, le changement des sociétés dans la durée. Si l'histoire comporte une part indéniable de récit, elle doit conduire, en vertu de son caractère scientifique, à la formulation d'hypothèses empiriquement fondées sur l'examen rationnel et méthodique de documents produits et conservés par les sociétés du passé. C'est pourquoi la fonction de l'histoire est d'expliquer, en tant que discours scientifique, pourquoi et comment les sociétés changent dans le temps. Cette raison d'être du discours historique a été malmenée ou déformée par un certain nombre d'acteurs du débat. Pas tous, évidemment. En défendant l'idée que l'histoire sert à savoir d'où l'on vient pour décider où l'on va, d'aucuns mettaient de l'avant une conception du passé menant à une forme d'inintelligibilité historique. L'idée, voulant que l'étude des erreurs du passé puisse nous guider avec certitude dans le futur, directement hérité des Romains, fait de l'histoire une maîtresse de vie. Historia magistra vitae, comme l'écrivait Cicéron. Cette vision moralisante de l'histoire, partagée par les Grecs, les Romains, les médiévaux et les humanistes de la Renaissance, qui privilégiaient tous un mode de raisonnement fondé sur l'analogie, ramène le passé à un catalogue d'anecdotes riche en enseignements moraux qu'il convient de méditer longuement à des fins d'édification personnelle. On la trouve dans le principe même de la lecture exégétique de la Bible qui repose sur un acte de foi voulant que toute l'histoire ait déjà été écrite et que les phénomènes nouveaux doivent être mis en parallèle avec les Écritures. On la trouve aussi sous la plume de Thucydide, que d'aucuns identifient à tort comme l'un des deux pères de l'histoire, l'autre étant Hérodote, qui indique clairement la dimension circulaire et analogique de son récit. « Je m'estimerai satisfait s'il est jugé utile par ceux qui voudront voir clair dans les événements du passé, comme dans ceux, semblables ou similaires, que la nature humaine nous réserve dans l'avenir. » Si la conception humaniste du passé, telle que défendue par Lucien Bouchard, ne relève pas de l'histoire, elle est bien moins dangereuse que celle qui détourne la démarche historique pour la mettre au service de reconstruction identitaire. L'un des usages les plus pernicieux du discours historique, attesté dès l'invention de ce dernier au 19e siècle, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît sur la première moitié du 20e siècle, consistait à camoufler une écriture mythographique en l'habillant des atours de l'histoire savante. La mythographie pseudo-historique n'a pas pour but d'expliquer le changement des sociétés dans le temps. Elle vise à souder des communautés de taille variable, la nation, le groupe ethnique, les habitants d'une ville ou d'une province, un groupe social particulier, en les faisant communier dans une même compréhension du passé. C'est ce qu'on appelle généralement le roman national dans le cadre de l'État-nation, mais il est clair que les différentes formes des mémoires particulières mises de l'avant dans l'espace public obéissent à la même logique. Or, la fonction identitaire de l'histoire a été largement évoquée pendant le débat sur la refonte du cours « Histoire de la civilisation occidentale », que ce soit dans la métaphore hydraulique de la source nourricière de la civilisation, dans l'image pégomaniaque des racines du Québec contemporain, ou dans la promotion des ancrages identitaires pluriels et de la notion d'identification aux Occidentaux du passé. Or, la finalité de l'histoire n'est pas de fabriquer la cohésion nationale, que l'on se berce naïvement de la grandeur perdue de l'Occident ou que l'on célèbre les ancrages identitaires pluriels, on fait, dans le meilleur des cas, de la mythographie politique, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'histoire équitable des rapports entre tous les groupes sociaux, au contraire de ce qui a été généralement fait. Si l'on ne doit pas étudier l'histoire antique et médiévale parce que ce sont nos racines, cela justifie-t-il qu'on puisse la rejeter? C'est l'idée qu'avançait Patrice Régimbal dans une lettre qui défendait le nouveau cours d'histoire mondiale en le présentant comme une sorte de huis clos occidental, qui ne serait pas de nature idéologique. Mais cet argument n'est guère recevable, puisque la liquidation de l'étude des mondes antiques et médiévaux au profit de l'histoire globale depuis le 15e siècle constituait indubitablement une forme d'ethnocentrisme. Elle revenait à admettre, à partir de critères et de valeurs d'aujourd'hui, que telle ou telle société du passé, en l'occurrence les plus récentes, vaut davantage la peine d'être étudiée que d'autres, ce qui, du même coup, hiérarchise leur importance dans l'histoire. Le caractère mondial du nouveau cours d'histoire n'aurait pas été une libération de l'ethnocentrisme attribué à l'étude de la civilisation occidentale, mais simplement le transfert à d'autres pans de l'histoire de nos préjugés actuels qui tendent à ramener le savoir à son utilité immédiate par une combinaison assez pernicieuse de présentisme et d'utilitarisme. Le choix d'enseigner l'histoire d'une époque ou d'une région, plutôt que celle d'une autre, doit donc d'abord et avant tout relever de justifications scientifiques, ce qui revient à subordonner les logiques pédagogiques aux logiques scientifiques. À cette aune, il apparaît que de ne pas étudier les mondes antiques et médiévaux est une erreur. Pas parce que l'histoire de l'Antiquité et du Moyen Âge est plus utile qu'une autre, ni parce que c'est notre histoire, mais parce qu'elle est nécessaire. L'analyse du fonctionnement des civilisations antiques, en dépit du mystère de leur genèse, ouvre une fenêtre sur des sociétés tout aussi différentes de la nôtre que celles de l'Inde et de la Chine du XVIIe siècle, et dont on peut cependant penser la fin indépendamment de toute référence aux sociétés contemporaines. Pour peu que l'on abandonne l'idée absurde de l'immobilisme de la société médiévale, l'intérêt indéniable de l'histoire du Moyen Âge est de constituer un laboratoire unique de l'analyse du changement social. Non seulement la société médiévale a laissé un nombre considérable de documents à partir desquels on peut écrire l'histoire, mais c'est aussi, en Occident, la seule dont on peut étudier le début et la fin. Par ailleurs, dans la mesure où la civilisation de l'Occident médiéval occupe une position unique dans l'histoire mondiale, elle est à la fois la matrice des logiques sociales ayant mené à l'émergence du capitalisme mondial et la civilisation qu'il a fallu terrasser pour que règne l'ordre libéral, il est incohérent de dire que cesser de l'étudier peut permettre de mieux comprendre le monde actuel. Le passé antique et médiéval fait en outre l'objet d'une récupération politique et affective profondément ambiguë par notre société. Il est tantôt source de fascination positive, pensons au succès de Rome comme destination touristique ou à la popularité de séries comme Le Trône de Fer. Tantôt l'objet d'un véritable mépris. Dans les discours politiques et médiatiques du Québec contemporain, le Moyen Âge est réduit au miroir inférieur de l'Occident libéral. Pour disqualifier quelque chose ou quelqu'un, rien ne vaut le fait de le décrire comme médiéval ou moyenâgeux. Le discours méprisant de notre société sur le Moyen Âge est d'ailleurs le pendant temporel du discours géographique péjoratif à l'égard des pays du tiers-monde. Tous deux sont apparus en même temps dans l'Occident colonialiste des 19e et 20e siècles. À l'inverse, les mêmes discours politico-médiatiques se réclament favorablement de la démocratie athénienne et de la République romaine, ce qui est un usage de l'Antiquité comme miroir grandissant de l'Occident libéral. Dans l'un et l'autre cas, ces discours ne mobilisent le passé antique et médiéval que pour lancer des fleurs à la société contemporaine. Là encore, on voit mal comment éviter la reproduction de ces discours qui mènent à la méconnaissance systématique de l'Antiquité et du Moyen Âge si l'on abroge l'enseignement de l'histoire de ces périodes. C'était Autopsie du débat sur la refonte du cours Histoire de la civilisation occidentale par Arnaud Montreuil, paru à l'été 2022 dans la revue L'Inconvénient.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canalem à l'adresse canalem.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Derion à la lecture, Nicolas Hartmann à la recherche, à la présentation et au montage.